essaye de l'être le plus qu'on peut, ça c'est clair net. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un label, etc.
Justement, il y a plein de choses en ce moment sur les berruriers noirs. Il y a toute une histoire, il y a tout un pataquès derrière.
Alors, faut rappeler que le berrurier est un nom propre. Donc, on ne dit jamais les berruriers noirs. C'est faux, c'est le berrurier noir ou berrurier noir. Point.
Berrurier noir. Donc, on est avec Beru, les berrues. Donc, il y a une grosse actualité en ce moment quand même. Hein. Les berrues reviennent pas. C'est un petit peu flou l'histoire. Les gens savent pas très bien où se situer. Est-ce que c'est de votre faute a posteriori, enfin a priori comme a posteriori, est-ce que vous avez du mal à prendre vos responsabilités là-dessus pour revenir en tant que groupe berrurier noir?
On n'a pas du mal, on n'a pas exactement les mêmes forcément au même moment. Mais on a plutôt un sacré entraînement au niveau de prendre ses responsabilités.
Puis autrement, à part ça, c'est sûr qu'on fait les choses comme on les sent. Pourquoi pas faire 4 concerts en 3 ans pourquoi être absolument soit revenir entièrement, soit ne pas être là. On avait envie de jouer, on l'a fait. Point. On est un groupe libre, hein, de toute façon, c'est clair et net.
Depuis 1983, le groupe est officiellement dissous et officieusement en vie.
Parce qu'il y a quand même eu officiellement un communiqué de presse qui disait que le groupe n'existait plus, et pourtant vous êtes là, tous les trois, ensemble, a priori, pour faire, entre guillemets, la promo du nouvel album. Donc c'est que le groupe existe quand même, malgré tout.
On lit pas énormément la presse.
On était pas au courant. Non mais c'est vrai qu'on a appris que le groupe était arrêté. Non mais c'est vrai, il faut dire les choses. On a appris, toi et moi, que le groupe était arrêté dans la presse, quoi. Donc si tu veux, c'est drôle. Mais à part ça, non, bien sûr, on l'a toujours expliqué. Les Berreux, c'est une transformation là. Donc en fait, c'est pas une reformation, que les gens ils s'attendent pas à ce que les Berreux arrivent, qu'ils partent en tournée, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on fait un label, ça nous prend énormément de temps. On est tous impliqués personnellement dans plein de choses. Il se trouve que les Berrues, on a moins de temps à consacrer au concert. C'est des choix qu'il faut faire, on les fait, voilà, point.
C'est un communiqué qui est sorti en pleine situation de crise pour éviter que tout le monde se dise « il se reforme ». Voilà, donc au moins ça mettait les choses au clair, ce qui veut dire que officiellement le groupe est dissous, en tout cas pour moi, et officieusement on fait ce qu'on veut.
D'accord, est-ce que ça vous empêche pas de refaire des apparitions sur scène comme Berrurier Noir, mais aussi sous une autre forme comme Amputé, où il manque certains membres du groupe
Et notamment François, justement Amputé, c'est quand François est pas là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Amputé, d'ailleurs.
Décapité qu'ils auraient dû l'appeler.
Parce que t'es la tête.
Je m'en fous, moi je vais faire mutiler et ça va être génial avec toutes les reprises des Berrues, mais sans les autres.
Non mais voilà, pourquoi pas, tu rigoles là-dessus, mais c'est pas, est-ce que ce serait pas une idée?
Non mais là, s'il nous fait ça, ça veut dire qu'il veut plus jouer avec nous, en fait, et que le problème, c'était qu'il a, parce que là, nous, c'est pas ça du tout. Nous, on voudrait qu'il vienne avec nous, mais il veut jamais. Soit il veut pas, soit il peut pas. Donc on s'est dit, voilà. Donc
quand je veux, ils sont jamais là. Il y en a un qui est au champ et l'autre, il est en train de faire des bébés. Donc voilà.
On m'a dit que j'étais un bonobo bobo.
Bobo nobo. à l'époque où vous avez arrêté les berrues en pleine apogée, on va dire, du mouvement indépendant, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à il y a 3 ans que vous êtes reformé, là, vous voyez une grosse différence par rapport à la scène, d'une part, la scène rock, entre guillemets, d'une part, et aussi par rapport au social-politique, d'autre part. Est-ce que, aussi, enfin, il y a plusieurs questions en une, on en passera peut-être...
On répond peut-être à la première question, est-ce qu'on trouve que le rock change? Bon, moi, oui, j'étais hyper surpris, parce que, après les Berrues, moi, j'ai fait plein de groupes, mais surtout dans une scène underground, alternative, squat. Je me suis pas rendu compte comment la scène semi-officielle elle se développait en France, et quand on est revenu sur scène, on a flippé, quoi, de voir les barrières crash, 20 mètres d'espace entre le public et les gens, des pubs partout, les VIP, bah ça avant il y avait pas tout ça, enfin tu vois, c'est on est les gens intermittents, les groupes qui ont vraiment leur set qui fait le temps exactement le même d'une date à une autre. C'est vraiment, les groupes sont dans un plan de carrière, tout ça. Bon, pas tous, mais disons que la scène semi-officielle est un peu comme ça. Et je trouve ça triste. Parce que justement, ce qui était, pour moi, le rock, ça doit être imprévisible, sauvage, dérapant constamment. Bon, bien sûr, maintenant, les groupes de rock en France sont hyper carrés. Je joue aussi bien que les groupes américains ont le gros son machin. Mais il se passe pas énormément de choses en concert. C'est vraiment chiant, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion de gens qui veulent voir les Berrues. C'est complètement hallucinant. Moi, je comprends pas trop, quoi. Mais ce que je commence à comprendre, c'est parce que finalement, ce qu'ils ont envie de voir, les gens, c'est des groupes normaux, quoi. Tu vois, c'est des êtres humains sur scène comme eux qui sont là et qui s'expriment et non pas une espèce de machine de guerre huilée où la folie a plus à la place, quoi.
Masto?
Oh ben pareil, hein. On s'est pris le même flip et on a, sur les quelques concerts qu'on a fait, on a bien. Enfin, on a dû se battre pour que les conditions nous semblent normales, en tout cas, et ça a semblé un truc surnaturel ou je sais pas quoi, mais pour nous c'était juste normal, quoi, que les gens ils puissent monter sur scène, que nous on puisse aller avec eux, que y ait pas des logos tournoyants et lumineux sur le public, quoi. C'est carrément très 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 angoissant, quoi.
Oui, il a fallu recadrer les choses et pour ce que nous on considérait comme un devoir par rapport à notre vécu. Donc on s'est imposé ça pour l'imposer aux organisateurs. Et grâce à l'intermédiaire de Gilles, qui est notre conseil juridique en tout lieu, en liberté, et qui, voilà, qui a su imposer une image du groupe comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On s'est retrouvé effectivement dans une situation où tout était gigantesque au niveau de la publicité, des écarts de scène, etc., et d'une professionnalisation d'un métier que nous on n'a jamais connu et dont on s'est jamais inséré là-dedans dans ce processus.
Nous on est amateurs, on est fiers de l'être et on est un groupe libre, justement, on dépend pas, on n'est pas intermittent, ça c'est hyper important, tu vois. Je veux dire, si on veut aller bosser, on bosse, tu vois, mais la ZIC c'est notre truc. Donc si tu veux, on va pas je veux pas être intermittent, moi je suis un marginal, tu vois, je veux justement rester un artiste pour moi doit être en marche par rapport au système pour pouvoir analyser les choses. Quand t'es complètement inséré à l'intérieur, tu te rends plus compte de rien, tu deviens un mouton pareil. Donc de toute façon il faut être à l'extérieur, et je dis c'est une chance pour être artiste. Je trouve qu'on a une chance hallucinante de pouvoir arriver à en vivre, etc., c'est très bien, mais par respect aux gens qui aiment les Berrues et qui écoutent les Berrues et qui achètent les Berrues et qui indirectement financent le fait qu'on ait ce recul-là, on se doit maintenant, nous, de pouvoir vraiment être actifs. Voilà. Donc on ne l'est pas énormément au niveau du groupe, mais au niveau du label, on l'est. C'est-à-dire qu'on sort plein de groupes, on est assez ouvert, même, tu peux voir, au niveau des styles. Ce qui compte pour nous, c'est pas le style, ça, le goût, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que les gens y sont, ce que les gens y défendent. Et c'est un label où les groupes ont une unité par rapport à ce qui sent différent d'un produit.
Je souhaitais juste rappeler que amateur, ça veut pas dire branleur, ça veut dire qui aime.
Tu es parti un beau matin chercher les clés de ton destin sur une piste aux herbes folles qui déparait pas comme un col à la recherche d'un idéal, une mise en scène de théâtral incarné dans le signe astral, magie d'un hiver boréal. Oh, tu suivras la côte de Jade jusqu'à la porte des 200 tigres et tu partiras tout là-bas rejoindre le golfe de l'Empire. Tu verras les pics de Tchatcher, les palais brisés sur la mer.
Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause à se faire par rapport à un groupe qui marche, entre guillemets, qui marche quand même parce qu'il rapporte un certain public, les gens vous aiment quand ils veulent venir vous voir, même les petits jeunes qui ne vous ont pas connu à l'époque, etc., etc. Une remise en cause par rapport au capitalisme dans lequel on est maintenant absolument, même si c'est pas enfermé, même si c'est pas une fatalité, par rapport aux publicités sur scène et tout, il n'y a pas une remise en cause à faire, enfin, à prendre les choses différemment et...
Exactement. Oui, je pense qu'il faut vraiment voir les choses autrement, avoir une logique autrement, réfléchir autrement, consommer autrement, ressentir, apprendre à communiquer autrement que par un mail ou apprendre à se parler, à se regarder, à sentir. Ça, c'est hyper important. Et
au niveau du label, on l'exprime assez clairement dans nos choix, c'est-à-dire que c'est un label qui a avant tout vocation à sortir des premiers disques, de premiers groupes. C'est-à-dire que voilà, on renvoie aussi la chose, quoi, et ça c'est fait avec les royautés des Bérus.
Sur FZM, vous avez sorti quand même pas mal de choses éclectiques, comme tu disais. Qui s'en occupe, enfin, qui choisit les groupes, comment ça se passe, c'est collégial ou, enfin, j'aimerais bien savoir exactement un peu la tambouille du label, quoi.
Il y a un peu de tout, si tu veux, ça c'est une rencontre avant tout, hein, c'est des rencontres qui se font, donc ça, c'est aléatoire, mais en même temps c'est pas aléatoire, une rencontre c'est jamais vraiment aléatoire. On peut citer les groupes un par un, Ethnopère par exemple, bon. C'est évident, Traumatisme avant, Violette Nilos, etc. On habite ensemble à la montagne, on se connaît très très bien. Violette, Masto et François, c'est mes plus vieux amis. Tu vois, je les connais depuis de plus de 25 ans. Donc voilà, donc ça c'était chose faite, c'était évident qu'ils sont dans un label et que nos pères seraient là-dessus. Ensuite, il y a eu Cellulix. Ils sont venus jouer à la montagne où j'habite. On a une petite salle à 10 minutes de marche sans accès en voiture. On monte le matos avec les ânes. Donc les groupes aiment bien passer, il n'y a pas beaucoup de thunes, c'est sûr, à ces concerts-là, parce que c'est des fils de berger qui viennent, mais ce qui est sympa, c'est que les groupes, ils vivent un moment super fort, parce que les gens qui viennent au concert, ils viennent pas pour voir un groupe, ils viennent pour faire la fête. Et ça, c'est des choses qui se perdent. Maintenant, quand t'as pas un groupe connu, ou t'as pas un affichage, ou t'as pas un bourrage de crâne, les gens, ils se déplacent plus, même pas pour voir des groupes inconnus, justement. Oh, je connais pas, j'y vais pas. Bah justement, tu connais pas, vas-y. Et ça, c'est hyper important. On est en train de perdre ça. Et voilà. Donc, Cellulix, ils sont venus à la montagne jouer. Moi, je les connaissais pas. J'ai pris une grosse claque. Donc, je les ai proposé au label. Hydra, Jérémy, moi, je connais bien Jérémy. J'ai fait un film en 90, qui s'appelle Barouf 90. Le off du printemps de Bourges, organisé par Emmetrop dans les bars. Donc, moi, j'ai rencontré Jérémy à ce moment-là, avec son groupe qui s'appelait les Witches Valley. Il était chanteur de ce groupe hardcore psychiatrique, je dirais. Et moi, je le connais parce qu'il est aussi du même village de la montagne où on est. Donc tout ça s'est passé à la montagne. Junior Conny, bon, hein, on le connaît bien parce qu'il est avec nous depuis un bout de temps. J'aurais voulu qu'il va arriver bientôt. Jérémia, moi, je le connais personnellement aussi avec Trauma. C'est un musicien que j'aime bien, c'est un gars qui a énormément de cœur, c'est vraiment une histoire, toi c'est que des histoires d'amitié et de cœur avec des gens. Mon Dragon, ce groupe de Lyon qu'on sort bientôt un CD. Pareil, Alexis fait partie de FZM, qui joue de la gratte dans le groupe, bon voilà, ça fait déjà un lien. HHM, on les a rencontrés à Brest, elles ont joué avec nous au concert de l'Astropolis.
On va sortir encore.
Non, ça va, ça c'est en projet. Bon, aussi, on a aussi sorti Knickrig, bon, qu'on connaissait de l'époque, parce que Jean-Michel Roux avait fait un court-métrage qui s'appelait comment, Quartier Sauvage, voilà. Donc on l'a rencontré en 83, donc on se connaît déjà depuis un bout de temps. Le Kratmi qu'on ne présente plus, hein.
Les propositions, elles peuvent venir de n'importe qui, quoi. Il n'y a pas de problème. Et sinon, au niveau du fonctionnement du label, il y a Paria qui est effectivement super important et déterminant et qui tient un peu les rênes. Et Gilles qui chapeaute un peu tout pour préserver une certaine tranquillité. Donc, on est cinq, peut-être un petit peu comme ça à la base du truc. Et notre principe acquis et pas toujours facile à pratiquer, c'est l'unanimité. Donc tout est systématiquement suggéré, proposé à tout le monde et on en parle jusqu'à qu'on soit d'accord.
Dans un rêve
On peut revenir directement à l'album, peut-être, là, ce nouvel album qui s'appelle Invisible. Alors pourquoi ?
Parce que justement, on est invisible, c'est clair. Moi, j'aurais voulu vraiment m'impliquer dans plein de choses, jouer dans la rue, jouer dans plein de lieux, ouvrir des squats, voilà. Il se trouve qu'on ne peut pas. Donc, pour moi, voilà, on est invisible.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une faute d'orthographe. Normalement, c'est imprévisible. Ils ont oublié le pré.
Il a l'air beaucoup plus clean. Au point de vue de la production du son, donc est-ce que vous pouvez nous dire si c'est si c'est voulu ou
il est dans la lignée de Souvent Fauché Toujours Marteau, qui était déjà clean, je dirais qu'il y avait une production derrière, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mixé en 3 jours, quoi, ça c'est clair. Par contre, sur cet album, on a fait toutes les prises très rapidement. Tout est fait en une prise, le plus rapidement possible, pour garder le jeu instinctif, pour pas justement... On savait qu'on allait galérer à mixer, parce que justement, nous trois, on n'a pas forcément la même vue de l'album au final. Moi, j'ai fait un premier mixage avec Mathieu au début, qui n'a pas du tout aimé les autres, qui était plus hardcore, je dirais. Voilà, donc moi, on a fait un album comme ça. Après, on s'est dit, bon, ça va pas. Donc, on a contacté Spirou, qu'on connaît bien aussi, qui joue dans Moelleux d'Oie, etc., qui est vraiment un gars super, avec qui on s'entend très bien, qui a vraiment là, on a vraiment fait un travail à quatre avec lui sur les mixages. Il a été hyper important. Il a apporté plein de choses. Voilà, plein d'idées, tout ça. Moi, je trouve pas qu'il soit clean, je trouve qu'il est vraiment, il est pas surprenant, certes, parce que c'est un d'idées perrues, c'est pas un nouveau groupe, c'est pas un nouveau son. Mais puis en même temps, on est en 2006, le matos c'est pas le même. On a vachement bossé en matos informatique, ce qui nous a permis d'enregistrer vite pour pas cher. On a enregistré sur un 2 pistes, hein. On a loué 2 pistes NIF quand même pour avoir le son analogique, mais on a tout passé dans un ordinateur. Parce que maintenant, c'est les moyens de faire une production pas chère avec un ordinateur. Hein. Bon. Donc c'est sûr que le son n'est pas le même que sur bande. C'est plus froid, plus clean, comme tu dis. Mais je pense que l'ensemble général de l'album, il se tient. Moi, je dirais pas, c'est l'album clean des Beru. Non, je trouve pas. Je trouve la seule critique que je pourrais dire, s'il y en a une, c'est que bon, il n'y a pas une pertinence artistique très grande. Il est bon, il est dans une lignée classique, je dirais.
Il y a aussi la voix qui a évolué pas mal de François.
Il essaie de chanter. Alors bon, après, faut voir si on aime ou aime pas. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Avant, c'est vrai qu'il parlait. Quand on écoute les premiers disques, c'est du texte lu. C'est du texte lu. C'est ça, du slam. Ça peut être du rap, voilà, du slam. Là, bon, ben, il chante. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens, ils sont surpris d'entendre François chanter.
C'est peut-être avec le passage Ange Déchu qui t'a fait peut-être prendre autre chose.
Moelleux d'Oie et voilà, donc l'évolution, elle se ressent forcément. Quelqu'un faisait remarquer que le jeu de guitare de Laurent était plus métal, c'est pareil, il y a eu Traumatisme qui est passé par là, donc c'est un album de transition dans le sens où il a fallu, quand on s'est retrouvé, recoller, se réadapter par rapport à nos univers musicaux différents, et on ressent toutes ces influences à travers cet album. Et moi, je vais pas en rougir, je trouve que c'est un album qui est intéressant pour ça aussi.
Il a été mûri longtemps, cet album, parce que vous êtes revenu quand même vers 2003. Là, on est en 2006, ça fait 3 ans. Est-ce que il y avait des créations qui datent depuis avant 2003 aussi ?
Ah, si, quand même. Il y a quelques morceaux que j'ai amenés qui sont arrivés. En fait, ça a commencé à être composé pendant qu'on faisait même Pas Mort.
Moi, j'étais en montagne. J'habitais 10 ans en montagne, à 1h30 de marche, aucun accès, complètement à l'eau froide, machin, bougie, bidule, machin. Comme un indien. J'ai mes deux enfants qui sont nés à la maison, tout ça. Donc, je suis rentré dans un trip avec trauma, tout ça, vraiment proche de la taxe, etc. Moi, j'ai une fascination pour le peuple amérindien. Donc, j'ai voulu essayer de vivre, voilà, mon truc. Ensuite, je débarque à Paris pour faire même pas mort. Ça devait prendre un mois, ça a pris 7 mois. Parce que finalement, on s'est retrouvé, on a fait un appel radio et fanzine de gens de l'époque qui avaient filmé au caméscope des images. On a reçu plein de trucs, on a halluciné, on s'est vu pour la première fois. Chose qui était quand même hallucinante. De voir les. Ça nous a, on a tous pris une claque quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvé au trans à jouer finalement. On a tellement pris une claque qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire une répète. Alors, c'est une répète. Et donc, moi, pendant ces moments de montage, des fois qui peuvent être un peu longs, pour des raisons techniques, tu passes 3 ou 4 heures, t'as un bug informatique, donc machin, j'avais une petite pièce où j'avais installé ma petite boîte à rythme et mon ampli, et j'ai commencé à jouer et à composer à ce moment-là. Donc, les premiers airs sont arrivés comme ça. Ensuite, on a décidé de faire un album. Non, même pas encore. On répétait pour les concerts. Donc pour les trans, et en répétant pour les trans, on a composé tout de suite, parce que dès qu'on se retrouve, on répète, on compose, c'est un truc instinctif. Donc on a fait le Cerf, le Loup et les Libertés qu'on a joué automatiquement en concert, plus d'autres qui étaient en chantier, et ainsi de suite. Et suivant les 4 gros concerts, on a cet album, il s'est fait pendant la création de Même Pas Mort et aux répétitions des 4 gros concerts. Voilà, il s'est fait à ce moment-là.
Ce qui était chouette quoi à vivre, c'est que même si c'était étalé dans le temps, chaque morceau était fait super rapidement, quoi. Quasiment 1 minute, 2 minutes à peu près.
Ouais, carrément, ouais. Et là, tu parles de la partie musicale quand même. Les paroles arrivent avec dans ces cas-là, ça rentre en...
Là, je dirais que sur cet album-là, en majorité, la musique est arrivée et les textes après. Mais il y avait des textes à François qui l'avait écrit, où il n'y a pas de musique, qu'on a lu et qui nous ont certainement influencés. Après, pour faire la zik. Mais parce qu'on n'a pas une méthode, en fait. On fait à l'instinct. C'est-à-dire que moi, j'ai ma gratte. Au moment où je branche la boîte pour faire le son, pour commencer à répéter, paf, tiens, regarde ce machin, ça sort. Oh, puis tiens, puis, on a encore dans les guitares, tiens, ce riff, pof, pof, ça part. Ma story, moi, je faisais pouf, pouf, là. Et puis voilà, et on est parti. Et au lieu de faire la répète du concert, on fait des nouveaux morceaux. Souvent, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se plante toujours en concert. Donc, voilà. Donc, si tu veux, c'est pour ça qu'on n'est pas un groupe. On peut pas être intermittent. On peut pas être des pros au niveau du rock. Parce que on n'arrive pas à faire un show qu'on répète constamment. On n'y arrive pas. Dès qu'on a joué les morceaux une fois et qu'on les connaît, on arrête. On va pas, tu vois, parce qu'on a peur de les perdre. Moi, je pense que des morceaux, c'est une durée de vie. Au bout d'un certain temps que tu les as joués, ils commencent à mourir. Alors, tu peux bien sûr les jouer quand même, mais là, le groupe, il dégage quelque chose qui pue très bon. Je pense, toi, tu les joues en te faisant chier. Ça, moi, on veut pas ça. Donc, si tu veux, on se préserve de ça. Donc, on les répète le moins possible, on les joue le moins possible, pour justement le moment où on doit les jouer, bon, on est en plein dedans, quoi. Quitte à déraper, à se planter sur en scène, mais en même temps on réenchaîne, ça fait un nouveau truc, on est tous surpris, qu'est-ce qui se passe, tiens François il délire et part dans un autre truc, faut le suivre, ou alors moi je me plante complètement, ou Masto il fait un délire. Il dit ça, mais quand t'écoutes les lives, tu capes direct. Donc, nous, moi, j'ai bien écouté les lives, tu vois que
on se plante. Bon, je suis pas du tout d'accord avec cette vision. Hein.
Non, disons que je suis d'accord à moitié sur cette vision, mais ça me fait penser à certains qui disaient on répète jamais, mais faut que toutes les tripes sortent en même temps. Il y a une autre construction, il y a aussi le fait de bien répéter, apprendre la règle, appliquer la règle, dissoudre la règle, c'est Bruce Lee ça. Donc on n'a jamais à... Voilà, moi je suis plus dans cette logique-là, c'est-à-dire que quand je sais bien le texte, je peux dissoudre la règle, je peux passer au-delà du morceau. Mais ça, c'est des approches musicales qui sont tout à fait personnelles. Je comprends qu'on est... voilà.
Ouais, non, mais ça se rejoint quand même. Les deux idées se rejoignent.
Ouais. Non. Ce qui est clair, ce qui est vrai, c'est qu'il faut garder un maximum d'authenticité et être là, présent. Là, le terme ici et maintenant, il faut l'être au moment du jeu. Voilà. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il se passe, évidemment, on n'est pas des machines et si quelqu'un provoque quelque chose à un moment donné, on réagira par rapport à ça.
Quand on répète, on est à fond, on est quasiment comme en concert. On ne sait pas répéter calmement, jouer tranquillement, tout ça. Ben voilà, donc si tu joues une fois un morceau, c'est bon quoi, t'as tout donné et voilà, hein, c'est bon.
C'est plus une question d'énergie et de confiance, de savoir ce qu'on peut donner, plutôt qu'une question de se dire on va répéter professionnellement pour que, arriver à 10 fois qu'on l'a fait, on va le faire bien la 11e fois. Ça, on n'est pas dans cet état d'esprit-là.
Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a fait les prises de l'album en une prise. C'est-à-dire qu'on sait, moi, je pourrais faire me concentrer avant la prise un petit peu, tu vois, et le faire comme si j'étais en concert. C'est-à-dire aucune alternative, tu te donnes aucune alternative. Parce que quand t'as une tendance à dire c'est bon, si je le foire on le refait, hein, bah t'es pas dedans vraiment parce que tu sais que si tu le foires tu le refais. Si tu te donnes le truc de enchaîner tous les morceaux, après j'en ai fait deux prises à chaque fois, comme ça pour avoir une sécurité, tu vois. Mais j'ai fait les deux prises en une prise. Comme ça, c'était vraiment le moment le plus émotionnel.
D'accord. Au niveau des thèmes, des paroles, hein, les thèmes de prédilection qui reviennent, il y a quand même le mot liberté qui revient, il y a Laos, et puis il y a Empire State Bulldog. Donc c'est vos thèmes de prédilection qui reviennent, c'est les berrues, quoi. On n'a pas de...
En gros, les gens, ils nous demandent « Ah, maintenant, vous êtes plus intéressé à l'écologie ». Par exemple. Bon, alors que moi je trouve que franchement on l'a toujours été de. Voilà. Parce que pour moi c'est un tout. Tout est un tout. La nature, les animaux, l'humain, tout ça est en osmose sur une planète et qu'il faut arriver à faire que les choses. Que tout le monde puisse vivre en respectant l'autre. Ça c'est la moindre des choses. Donc c'est vrai qu'actuellement ça nous paraît évident. S'il y a une urgence, ça c'est clair et net, donc on peut pas revenir là-dessus. Voilà, donc on parle, je sais pas, de plein de choses qui nous touchent. Je trouve que c'est un album assez, je sais pas, je vais voir les titres, le cerf, le druide et le loup, c'est comme un conte un peu, mais en même temps...
Ça a été conçu un peu comme ça, comme un ensemble de contes et légendes, d'histoires avec une base, peut-être un noyau dur véridique, et puis après un enrobage qui fait qu'on a envie de raconter une histoire et à chacun d'interpréter cette histoire comme il l'entend. Mais il n'y a pas eu de fil directeur, il n'y a pas une part. Mais c'est vrai que le mot liberté est un mot important et c'est un titre important dans l'album. Mais il n'y a pas de thème berreur et hein, ce sont des contes. On donne des histoires aux gens et voilà. Enfin moi je le ressens comme ça surtout.
Voilà, je dirais peut-être s'il y a des morceaux comme tu dis plus berru, c'est peut-être les morceaux à cœur. Il y en a notamment trois, c'est-à-dire On en a marre, Coup d'État et Quelque part. Bon, qui sont des morceaux plus dans une lignée entre guillemets street punk. Mm-hmm. Ouais, Liberté aussi. Donc ça fait quatre. Bon, qui sont Liberté me fait penser à Descendant dans la rue. Un peu, enfin, il y a tout un côté. On en a marre, je sais pas, mais coup d'État. Mais ça, c'est des morceaux, c'est vrai, classiques, je dirais. Mais il y en a d'autres. D'ailleurs, qui font partie du style berru, c'est-à-dire ouvert sur le monde, ouvert un peu sur d'autres cultures. François sur l'album, sur quelques morceaux, joue du monocorde viet, donc ça amène une petite touche à des moments sympas. Masto a vraiment participé sur tout l'album là cette fois-ci. Alors pas uniquement au niveau du sax, mais c'est l'album où il y a le plus de sax. Tout l'album des Berru, c'est vraiment un travail à trois. Les morceaux où il joue pas de sax, il joue du didge, où il chante avec nous, enfin bref. Donc c'est vraiment un album qu'on a fait à trois. Jean-Mi ensuite est arrivé. Donc on aurait dû le faire à 4 vraiment cet album. On l'a fait à 3 plus 1 parce qu'il est arrivé après et qu'il a arrangé et qu'il a rajouté lui des petites ambiances électroniques avec ses machines voilà en plus.
Et d'autres personnages qui interviennent sur l'album?
Ben ouais, c'est Barbara qui est venue participer sur deux morceaux quoi, ça s'est fait spontanément et ben d'une part enfin moi ça m'émeut énormément quoi, je trouve ça super ce qu'elle a fait. Elle ouvre aussi les berrues, ça elle ouvre les portes d'un son nouveau, d'un monde nouveau.
Au fait, tu dis Barbara, c'est émotif pour moi. C'est qui
Barbara, c'est la chanteuse et guitariste de Barbirosa.
Voilà, qui a un groupe, il faut rappeler qu'il y a un groupe de Lille, un groupe électro très pop de Lille. C'est une voix comme un instrument. On avait fait ça un peu sur Tango, il s'appelait comment Protesta. Il y avait une copine qui était venue chanter. Comme un peu les folles de la place Mai, avec une voix un petit peu lyrique. Donc là, Barbara fait un son avec sa voix. Bon, celui-là, mais c'est surtout dans Love in Laos, où c'est vraiment nouveau pour les Berru. T'as une voix un peu à la Patti Smith en anglais, parce que c'est un morceau en deux langues, français-anglais. François chante en français et elle chante en anglais. Donc c'est une réponse entre un homme et une femme, voilà, en anglais et en français. Donc c'est vraiment vraiment nouveau, qu'on n'avait jamais fait ça encore. Et c'est vrai que ça amène un autre son.
«
De Ethnopère est venu faire de la guimbarde. Il est venu aussi jouer du gazou. Il est venu parce qu'il avait envie d'être là et on est super content. Il y a aussi les copains et copines qui sont venus pour les chœurs.
Et les enfants,
Elfie, Anki, qui sont venus chanter on en a marre, donc ma fille et mon fils. Donc là je suis hyper content. Ça c'est vraiment super, ça commence à être super bien. Je commence à faire des choses en musique avec mes mômes. Et ça, c'est super fort. Moi, je suis super content. Moi, je me rappelle Poison Girl à l'époque. On avait joué avec eux au théâtre de la Villa Châtelet en 84. Le batteur était le fils de la chanteuse. Et ça, déjà, moi, ça m'avait paru à 18 ans, 20 ans. Ça m'avait choqué presque, tu vois, qu'on puisse faire un groupe avec sa mère, quoi. Putain, merde. Et en fait, moi, je suis hyper content. Et là, on a fait un concert amputé au Mans. Où Elfie, Anki et Wati, le fils à Gwendoline, la femme avec qui je vis, ont chanté à eux trois quatre morceaux des Berus en faisant la voix lead. C'était super fort. Et là, les gens, ils ont pris une claque. Il y avait vraiment comme si qu'il se passait un truc, vraiment. Il y avait une relève, je sais pas, un truc. C'était vraiment fort. Et ils ont déchiré. C'était super. Et puis voilà, autrement, on participait aussi. On parle pas assez, mais les ingé-sons sont vachement importants parce qu'ils font partie de l'album, que ce soit Mathieu qui a fait les prises ou Spirou qui a fait les mixages. François des studios de la Reine à Paris qui a filé un coup de main aussi, un ingé-son. Il y a aussi toute l'équipe FZM qui est là. On en avait vachement parlé de ce disque, à discuter sur la pochette, sur comment on allait faire la promo, sur comment on allait balancer l'info, tout ça. On voulait faire un truc intelligent, un truc humain, quoi. Et donc c'est vraiment un disque qui s'est fait en équipe, Voilà.
Mais on voit qu'au niveau du graphisme, il y a des nouveautés.
La pochette qui est super belle, c'est Loubet Loubet qui l'a fait, notre vieil ami préhistorique. Voilà, qui fait des dessins en utilisant des couleurs qu'il fabrique avec les myrtilles qu'il fait pousser dans son jardin, et avec ses petits pinceaux et ses encres. Et elle est super belle, quoi.
On a voulu ces derniers temps un peu faire évoluer le graphisme Beru. On a fait plein de choses différentes. Que ce soit l'Opéra des Loups, t'as un graphisme qui est fait par Organic Comics, un collectif de Lyon, qui sont des gens qui font de la performance en BD, en concert, dans la rue. Ça, je trouve ça intéressant. C'est une façon de faire de la BD qui change. C'est de la BD active. Ça montre c'est de l'action directe en BD, quoi. Ils sont là pendant un concert, ils te font des cases, et à la fin du concert, enfin un one shot de 4-5 cases qui restera sur le lieu. Et puis voilà, c'est vraiment cool, je trouve. Donc là, on essaye d'ouvrir un peu. Voilà, si on fait, on va sortir d'ici quelques semaines un 6 titres avec 6 morceaux encore inédits. Parce qu'on les a pas mis tous sur l'album, avec encore une autre pochette, avec un autre graphisme, et puis voilà.
D'accord, donc prévision d'un 6 titres supplémentaire là.
Parce qu'en fait, à la base, ça devait être un 18 titres, et on trouvait que c'était un peu trop. Ça faisait un peu mal au crâne. Beru, je pense, au bout de 12-13 titres, ça commence à faire un peu mal au crâne. C'est peut-être ce côté boîte à rythme grade, je sais pas. Ça fait un truc comme une barre, après, tu vois. Donc, on s'est dit peut-être pas trop, voilà. Donc, on va en faire 12. Et comme les 6 morceaux, on a eu vachement de mal aussi à ça. Ça, c'est vachement dur parce que ces 18 morceaux sont vraiment représentatifs. Je trouve qu'ils manquent, en fait. Quand ils y étaient, je trouvais qu'il y en avait trop. Et maintenant qu'ils y sont plus, je trouve qu'ils manquent. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte qu'ils sortent ce petit. Alors, ça sera un 6 titres qui sera vendu uniquement sur le site afzm.fr. Donc, il sera pas en distribution classique et en disquaire indépendant. On commence petit à petit à expérimenter une autre façon de distribuer les disques aussi. C'est important pour nous que les Beru soient un peu partout parce que c'est les Beru qui financent FZM et c'est important. C'est grâce aux Beru qu'on parvient à produire des groupes à perte, etc. Pour l'instant, faut quand même rappeler qu'en 3 ans, de toutes les choses qu'on a produites, il n'y a que 3 albums où on est juste rentré dans les frais. Donc c'est pour l'instant FZM est complètement à perte. Donc c'est les Beru qui financent FZM. Il n'y aurait pas les Beru, FZM aurait dû arrêter ou changer ou faire autrement, quoi. Donc voilà. Donc mais on tient encore absolument à pas tenir compte du fait qu'un artiste ou un groupe, parce que FZM c'est pas uniquement de la zik, c'est aussi, ça peut être aussi de l'écriture, ça peut être des films, de la BD, on distribue plein de choses. Donc voilà, ne pas tenir compte du fait que cet artiste va marcher ou non. On veut vraiment faire ce qui nous trouve important, ce qui nous trouve intéressant, même si on n'en vend qu'un. L'important c'est de le faire.
Donc ça c'est par rapport au projet, aussi les rééditions de tous les Beru aussi à venir en vinyle. Là ça a déjà commencé.
Ça c'est important, ça c'est aussi pour contrecarrer tous les disques vinyle pirates, ouais. Qui sont, non pas parce qu'ils sont pirates, ça nous fait chier, c'est qu'ils sont vendus super cher. Et on en voit entre 50€, 100€, tu vois, donc ça nous fait vraiment chier. Donc par rapport à ça, on ressent en vinyle pas cher. Voilà, je crois que ça sera entre 10 et 12€, voire à 10€, voilà, vinyle.
D'accord. Et est-ce qu'on peut espérer vous voir, même si c'est par surprise ou etc., sur scène quand même?
On sait pas, c'est vraiment une réalité, hein. C'est pas du tout un coup de pub qu'on fait ou un coup de marketing qu'on se dit gnagnagna. Non, absolument pas, c'est vraiment la réalité. François est hyper pris. Il a une activité qui lui permet pas d'avoir beaucoup de temps, donc c'est pas évident. Moi je fais plein de trucs à droite à gauche aussi, Masto aussi. On n'arrive pas à synchroniser pour l'instant des moments pour faire le groupe en concert. Tu vois, on arrive à choper à l'arrache pour faire des trucs comme ça et tout, c'est cool, mais pour vraiment faire une tournée, il nous faut plus de temps. Moi j'ai envie de faire un nouveau spectacle, travailler sur d'autres choses au niveau visuel, etc. Ça demande un certain temps quand même, au moins de rencontres avec les gens, sortir un peu, etc. Voilà, donc pour l'instant c'est... Mais bon, il y a amputé avec ma Sto, on se défoule à fond. Ce qui est sympa, c'est que les amputés, je le rappelle, c'est jamais annoncé, toujours en surprise, et donc jamais payé, bien sûr. Ça va être,
donc les bérus ne réapparaîtront pas tant que amputé existera. Ça, c'est sûr.
Voilà, il y a quand même une petite frise.
Et amputé existera tant que les bérus joueront plus en concert. Donc voilà. Quelque part, on est dans un cercle vicieux. En gros, il faut une carte de séjour pour pouvoir bosser et une carte de boulot pour avoir une carte de séjour. C'est le cercle vicieux infernal.
Un morceau qui s'appelle Coup d'État de la jeunesse, qui parle du CPE. Alors avant, les Bérus, ils étaient précurseurs dans les mouvements alternatifs et de revendications. Et là, est-ce que c'est pas une récupération que maintenant les Bérus parlent du CPE qui est passé?
CPE, le texte, hein, c'est
un morceau était fait avant.
Hein, c'est un morceau qui sonne un peu comme une incantation et qui dit que la jeunesse en France n'a pas assez de pouvoir et n'est pas assez présente dans la vie sociale et dans la vie, et que la France, la société, est toujours frileuse vis-à-vis de sa jeunesse. C'est pas un phénomène nouveau, c'est depuis les années 60 peut-être même avant que ça existe. Et c'est une exhortation aux gens à s'organiser, à s'autonomiser et à se prendre en charge. Voilà. Mais moi, je suis pas sûr que les gamins aient ce qui s'est passé, ce qui est lié au CPE, c'est qu'il y a eu un clip qui a été monté
Regarde à vue,
qui a pris des images des manifs de CPE.
Donc c'est pour ça qu'il y a un lien. Mais en même temps, là, on a fait quand même une petite allusion au CPE avec ce break break instrumental où t'as une grande manif. Bon, c'est clair, on a fait référence comme la pluie. Il a été fait bien avant le concert à Québec, mais quand on l'a mixé, moi j'ai pas arrêté de penser à ce concert où tout le monde était recouvert de boue. Donc ça nous a influencé, même si le morceau était fait après. Là, je pense que ça nous a influencé aussi, ne serait-ce que sur les chœurs, la façon de scander les chœurs, etc. Il y a un côté street dans ce morceau. qui fait que si les jeunes n'étaient pas descendus dans la rue, on n'aurait peut-être pas eu l'idée de faire comme ça. Ça, ok. Mais disons qu'on, c'est pas un morceau démagogue au sens où on récupère un truc pour faire un morceau. Non, c'est justement, c'est, tu vois, ce qui est vraiment triste, c'est que chaque initiative de jeunes est automatiquement cassée. Quand tu vois des squats ou des lieux autogérés par des jeunes qui veulent vraiment faire des choses par leur propre chef, c'est automatiquement sabré. On criminalise la chose, on est expulse. Hein. Quand tu vois qu'un fumeur de joint qui dérange personne se fait emmerder, mais gravement, par contre la lobotomie de la télé qui rend notre jeunesse débile, ça dérange personne. Et c'est vraiment triste. Parce que moi je pense qu'il vaut mieux fumer des joints que regarder la Star Academy, tu vois. Tout ça, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que la France se plaint que c'est un pays de vieux, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, etc. Mais on ne laisse pas la place à l'initiative des jeunes. On essaie de leur faire croire qu'il faut faire sa place comme un petit loup, comme un jeune loup à l'américaine, marcher sur la gueule de l'autre pour faire ta place. C'est faux. Il faut justement se serrer les coudes, s'écouter entre nous, sortir dans la rue, décrocher de l'internet, décrocher de la télé, et aller au concert, même quand c'est groupes que l'on connaît pas, aller s'instruire, aller dans les bibliothèques, puis aller dans les FNAC parce que c'est là qu'on en trouve rien finalement, parce que à force qu'ils réduisent toutes les choses qui marchent pas, mais il reste que les trucs qui marchent, et les trucs qui marchent, c'est pas les trucs les mieux. Ah, il se trouve. Donc voilà, donc coup d'état de la jeunesse. Donc c'est donc un morceau s'il a quelque chose à dire aux jeunes, c'est bah voilà, prenons-nous, j'ai envie de dire, parce que moi je me sens jeune aussi. Putain, le monde de demain, c'est nous quoi.
Non, mais voilà pourquoi se limiter au mot jeunesse aussi. Il y a quelque chose que je saisis pas vraiment, puisque ça concerne toute la population, tout, la télé, la FNAC, etc.
On a ressenti quand même un certain fatalisme globalement des jeunes qui nous a touchés, et donc c'est surtout à eux qu'on avait envie de s'adresser, d'une part par rapport à ça, et puis une des choses auxquelles on croit et sur laquelle on est tous très très unis, c'est l'éducation. Et c'est vrai qu'a priori, ce qui est, je pense pas qu'on arrête de s'éduquer à un certain âge, mais a priori c'est un sentiment qui te pousse vers les plus jeunes.
Et puis il y a aussi une disponibilité qu'ont les jeunes, que n'ont pas les autres, qui sont dans la vie active, parce que dès maintenant, ça y est, à 20 ans, il faut que t'aies ton boulot, ton appart, t'as une copine, t'as un môme, t'es rentré dans le truc, les allocs, les machins, tu t'en sors plus, les congés payés, les machins. Enfin bref, tout le soin qui fait que t'as plus le temps de vraiment prendre ce recul pour avoir à réfléchir et construire autre chose. Les jeunes sont l'avenir des vieux, ça c'est clair. C'est les jeunes qui ont ce temps pour pouvoir faire autrement, faire autre chose, parce qu'ils ont la chance de pas avoir mis la main dans un système où ils sont complètement pris. Après il y en a plein qui le sont quand même pris dedans, parce que l'école c'est déjà un système. Ils commencent très très jeunes à te mettre à l'intérieur d'un espèce de système, dans des moules. Quand je vois qu'il y a des enfants qui sont orientés déjà à 5 ans à l'école, à 4 ans, je sais pas, moi je vois, mais mon fils il a vu une assistante sociale à 5 ans parce que bon, ouais, il est un peu comme moi quoi, un peu énervé quoi. Moi je lui dis, faites pas une psychanalyse à mon fils, faites-la à moi. Parce que vous connaîtrez mieux mon fils, ça paraît évident. Et comment voulez-vous qu'il soit heureux alors qu'il sent que le monde autour de lui est complètement, il y a un mal de vivre de tout le monde. On a l'impression qu'on arrive à la fin d'un truc, donc tout le monde fait n'importe quoi, comme si c'était la panique générale là-dedans. On a l'impression qu'on est dans un bateau qui coule et que tout le monde essaye de sauver sa peau, quoi. Bah, je dis, hey, stop! On répare le bateau, on essaye de faire quelque chose, donc posons-nous les vrais problèmes, essayons au quotidien, tous autant qu'on est, parce que c'est bien un mot, c'est vrai de dire oui, l'État c'est pas un bien, ça c'est pas un bien, mais l'État, quand on réfléchit, c'est nous. Donc, comme dit Masto souvent, balayons devant notre porte, déjà, tuons le facho qu'on a en nous en premier, avant de tuer l'autre, parce que déjà, si on gratte bien... Non mais... non mais tu vois ce que je veux dire, il y a tout un truc personnel à faire qui est hyper important.
Il est où ?
Consommer autrement, réfléchir autrement. Voilà, c'est ça, Béru, tu vois. Je dis des trucs super intéressants, ils en ont rien à foutre.